Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Il y a eu le temps des applaudissements pour les soignants. Voici venu le temps de l'appli Stop Covid. L'application de traçage du virus est enfin prête, bientôt disponible sur nos smartphones. L'idée, c'est de ralentir la propagation du virus en alertant tous les contacts proches des personnes infectées. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Faites-nous un petit topo, comment ça marche?
Alors déjà, premier principe, c'est le volontariat. Chacun aura le choix de télécharger ou non l'application sur son smartphone. Ensuite, lorsque les téléphones de ceux qui ont installé Stop Covid vont se croiser au supermarché, dans le train ou dans un parc, le mobile de l'un enregistre de manière anonyme les données de l'autre dans son historique via la connexion Bluetooth. L'application gardera mémoire de cette rencontre. Troisième étape, vous avez des symptômes, le médecin vous prescrit un test, il est positif. Le laboratoire vous donnera un code que vous renseignerez dans l'appli et ensuite en remontant dans votre historique ceux que vous avez vus les jours précédents, à moins d'un mètre pendant 15 minutes et qui ont Stop Covid sur leur téléphone, bien sûr, seront prévenus via une notification. Un mètre pendant 15 minutes, ce n'est donc pas à croiser quelqu'un dans la rue ou 3 minutes dans le métro. Le nom de la personne malade ne vous sera pas communiqué, bien sûr. Et ensuite, Stop Covid vous indiquera à vous le nouveau cas contact, la marche à suivre. Vous isolez, appelez un médecin et allez vous faire tester. Seuls des pseudonymes éphémères seront stockés et partagés sur un serveur central. Aucune liste de malades ne sera établie.
Et tout ça, Sophie, c'est pour quand?
Alors, au départ, l'application était annoncée pour le 2 juin, mais Stop Covid sera peut-être opérationnel dès ce week-end après le débat au Parlement qui commence demain. En tout cas, c'est ce qu'espère le secrétaire d'État au numérique dans le Figaro ce matin. L'application est testée depuis quelques jours par une soixantaine de militaires sur le terrain en grandeur nature et bientôt donc par tous ceux qui le souhaitent.
Merci Sophie Orange de la Brigade Coronavirus d'RTL. Le débat sur la chloroquine est relancé. L'Organisation Mondiale de la Santé a décidé de suspendre temporairement ses essais cliniques menés dans plusieurs pays avec de l'hydroxychloroquine, une mesure de précaution suite à l'apparition d'une étude qui juge inefficace, voire carrément néfaste, l'utilisation de l'antipaludéen contre le coronavirus. Le professeur Didier Raoult, grand défenseur de la chloroquine, parle d'une étude foireuse réalisée par des gens qui n'ont pas vu de patients.
Il faudrait surtout que le débat sur la chloroquine s'arrête complètement. 8h03, l'automobile est tombé bien malade à cause du coronavirus et Emmanuel Macron cherche le remède.
Le chef de l'État dévoilera son plan de soutien cet après-midi dans une usine Valeo à Étaples, près du Touquet. Avant cela, il doit s'entretenir à l'Élysée avec les acteurs de la filière et notamment le PDG de Renault qui réclame un prêt garanti de 5 milliards d'euros mais prévoit aussi des fermetures d'usines en France. Alors pour soutenir l'automobile, l'exécutif mise sur les véhicules propres, la voiture électrique, pas si propre en fait à cause de ses batteries. Et en termes d'emploi, Christophe Bourreau, eh bien le remède pourrait être pire que le mal.
Le développement de l'électrique pourrait signifier à terme une casse sociale, car là où 5 salariés sont nécessaires pour fabriquer un moteur essence, il n'en faut désormais plus que 3 pour élaborer son équivalent électrique. Plus simple à assembler avec moins de pièces, et au final c'est près de 20% des emplois qui seraient menacés, soit 40 000 postes sur les 200 000 que compte le secteur, selon une étude de l'Observatoire de la métallurgie. Mais l'électrique, c'est aussi une façon de relancer des ventes qui s'essoufflent. Une marque comme Tesla qui affiche des résultats insolents en est la preuve, à condition de maîtriser la fabrication des batteries, pour l'instant dominée par les Asiatiques. C'est la raison pour laquelle la France et l'Allemagne ont créé l'Airbus de la batterie. PSA, Total sont déjà dans la boucle et l'État met la pression pour que Renault en fasse partie. C'est aussi une façon de baisser les coûts, car pour l'instant, une voiture électrique, c'est 20 à 25% plus cher qu'une voiture thermique, d'où le coup de pouce du gouvernement, avec un bonus qui pourrait grimper à 8000 euros, dans l'espoir de voir enfin décoller ce marché, pénalisé ces dernières semaine par un prix du pétrole au plus bas.
Christophe Bourreau, le spécialiste auto d'RTL.
Et nous allons débattre de tout cela à 8h20 avec le porte-parole de nos constructeurs François Roudier et Cécile Goubet qui est les délégués générales pour le développement de la mobilité électrique.
Dans deux jours, c'est Édouard Philippe qui dévoilera les détails de la phase 2 du déconfinement à partir du 2 juin. Une certitude, les règles du chômage partiel ne seront plus les mêmes. Il ne sera plus pris en charge à 100% par l'État. Les entreprises vont devoir assumer 15% du coût. Cela ne change rien pour le salarié qui perçoit toujours 84% de son salaire net et au minimum le SMIC.
8h05, une pause et dans un instant, grève des loyers rue de la Liberté.
RTL Matin.
8h06, on a beaucoup parlé des livrets d'épargne, plus garnis que jamais pour cause de confinement. Mais pour beaucoup, l'épidémie de coronavirus, c'est au contraire le début de la misère.
Illustration à Bagnolet, près de Paris, dans un immeuble de la rue de la Liberté. 21 familles ont débuté une grève des loyers car elles ont perdu leurs revenus, au moins en partie. Malgré le confinement, le bailleur a réclamé des charges supplémentaires. La facture de trop, surtout pour un immeuble vétuste, Mourad Djabari.
Oui, un petit immeuble de 4 étages. La façade paraît fraîchement rénovée. Un cache-misère à l'intérieur. Le bâtiment fait son âge. Et derrière chaque porte, un drame familial, social à huis clos.
Bonjour, c'est Christelle. Ça va ? Je suis avec un journaliste d'RTL. Il peut jeter un œil ?
Bonjour, monsieur.
Mourad.
Vous allez bien ?
Monsieur Mazaroui, il vit ici depuis les années 78-79, depuis le début de l'immeuble. Ils lui ont jamais rien fait. Regarde la salle de bain, toute la plomberie. Ils n'ont jamais rien fait ici.
Des appartements pour certains délabrés et la crise du coronavirus ajoutée à une charge supplémentaire de 140 euros du bailleur en mars ont poussé les locataires à ne plus payer leur loyer.
Pour moi, c'était très dur, toutes ces charges.
Maria est une femme de ménage au chômage depuis le confinement. Elle touche 860 euros d'indemnité, presque le montant de son loyer.
Vous payez combien de loyer ?
770 et plus les charges.
Et donc vous n'avez pas payé votre loyer depuis quand ?
Mars, avril et ça c'est troisième mois à mai.
Tout simplement, vous n'avez pas l'argent nécessaire pour régler ?
Parce qu'avec 800 euros, deux personnes, avec tout ça, je crois que c'était pas assez. Je n'arrivais pas. L'électricité... Il m'appelait pour lui régler toute cette facture parce que sinon il va me couper l'électricité.
Maria n'est pas un cas isolé, il y a cet entrepreneur indépendant du quatrième étage.
Il faut utiliser le découvert qu'on a à la banque, on n'a pas le choix.
L'auxiliaire de vie en dessous.
On se serre un peu la ceinture.
Tous au chômage des victimes financières du coronavirus.
Reportage RTL de Mourad Djabari à Bagnolet. Face à la crise, la CGT, Greenpeace et ATTAC présentent aujourd'hui une plateforme de propositions communes. Une initiative assez rare hein, entre associations et syndicats. Oui. Il faut sortir du système néolibéral et productiviste, c'est ce qu'ils disent.
8h08, c'est l'un des effets inattendus de la crise. Le plastique fait un retour en force.
Oui, la production a augmenté de 30% depuis mars. Un comble, hein, alors que depuis le 1er janvier, on a banni les cotons-tiges et la vaisselle jetable. Absolument. En plastique. Mais bon, le plastique néfaste pour l'environnement a aussi des vertus sanitaires. Et on n'en a jamais autant utilisé, Denis Grandjou.
Hugo vient de faire ses courses dans un hypermarché. Il remplit son coffre et pour lui, le plastique est effectivement toujours omniprésent.
C'est vrai qu'on va trouver des emballages dans les grands supermarchés où il y a 4-5 rouleaux de plastique pour 4 ou 5 petits produits. Quoi. Tout est empaqueté, réempaqueté.
Difficile d'avoir des responsables d'hypermarché très discrets sur ce sujet quasiment tabou. En revanche, dans les surfaces moyennes, pas de problème pour en parler. Philippe Follet, directeur d'un Carrefour Contact.
On est dans la réserve où arrive toute ma marchandise.
Ah, ça se voit, ouais, c'est que des emballages, ce qui recouvre tout ce qui est les emballages de liquide.
Un magasin de 400 mètres carrés.
À la semaine, je fais donc à peu près entre 25 et 50 kilos de plastique pour 400 mètres carrés.
Et donc une très grande surface, ce sont des chiffres qui sont multipliés par 20.
Par 10, ouais. C'est énorme.
Et on ne pourrait pas imaginer le même pack sans plastique ?
Donc plus de carton.
Depuis quelques jours, il a toutefois remarqué que les fruits et légumes emballés dans du plastique avaient tendance à moins se vendre au profit des présentations traditionnelles issues des circuits courts.
Reportage RTL de Denis Grandjou à Bordeaux. Aux États-Unis, Joe Biden a fait sa première apparition publique depuis plus de 2 mois. Le candidat démocrate a assisté masqué à une cérémonie d'hommage aux anciens combattants. Il n'était pas sorti depuis un débat contre Bernie Sanders le 15 mars. Il fait campagne à distance, Joe Biden, depuis un studio installé dans sa maison. En football, l'OM garde son entraîneur. Le Portugais André Villas-Boas a finalement décidé de rester aux manettes alors que l'équipe va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. La rumeur de son départ pas enflé depuis 10 jours, depuis en fait l'annonce de la fin de contrat du directeur sportif, l'Espagnol Zubizarreta. Les supporters marseillais étaient furieux, les voilà rassurés.
Et on va terminer ce journal avec une petite histoire du jour.
Oui, histoire d'une fête assez audacieuse à Châlons-en-Champagne dans la Marne. Les policiers ont dû intervenir dans un appartement car une piscine avait été installée dans le salon, transformée en discothèque, c'est ce qu'on appelle une pool party. Oui. Les pompiers ont dû intervenir aussi car le poids de l'eau risquait de faire s'effondrer toute la dalle. Visiblement, les deux jeunes locataires étaient en mal de piscine et de discothèque.
Et c'était le journal d'Isabelle Choquet.
RTL Matin. Yves Calvi.
Il est 8h11, c'est l'heure de notre tour en région avec nos correspondants qui mettent en lumière des pépites du patrimoine, notamment pour vos vacances. Patrick Hisson, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous emmenez dans le département de l'Ariège, Patrick, plus précisément à Montségur, au cœur de ce qui fut la capitale des Cathares de 1204 à 1244. Alors pour accéder à ce site chargé d'histoire, il faut d'abord se munir d'une bonne paire de chaussures pour une courte randonnée dans la montagne.
Oui, il faut compter entre 20 et 30 minutes sur un chemin parfois très raide, mais accessible aux familles. Avant d'arriver au sommet, à mes côtés, voici Fabrice Chambon, le guide de Montségur.
chemin de montagne, hein, donc terre, cailloux, humus, et puis les chants des oiseaux. Alors, la première partie du chemin est une partie plus ou moins moderne. Par contre, nous allons bientôt déboucher des taillis, et là nous allons rentrer sur le chemin historique qui est taillé dans le rocher.
C'est là qu'apparaissent les premières ruines, celles de morceaux de murailles qui protégeaient l'accès au château.
Toujours assez émouvant de se dire que les cathares ont vu, ont touché ces pierres et que ces pierres ont connu de durs combats pendant ce terrible siège qui va durer au total plus de 11 mois.
Et ce siège, et l'histoire tragique des cathares de Montségur, Patrick, c'est le guide qui va ensuite l'expliquer aux visiteurs.
Exactement, arrivé au sommet à 1207 mètres dans la cour du château avec un vrai talent de conteur, Fabrice Chambon, plonge le public près de 800 ans en arrière.
Le catharisme, un, c'est une religion, deux, les cathares, ce sont des chrétiens, et trois, les cathares étaient des chrétiens qui avaient une question qui les fascinait toute bête. Si Dieu, là-haut, est si bon et aussi puissant qu'on l'écrit dans la Bible. Pourquoi, quand on dit ça, sur Terre, il n'y a que des guerres, des gens malades, des épidémies?
Et sur le POC de Montségur, l'âme des cathares n'est jamais très loin.
Quand on vient à Montségur, on ne visite pas ce lieu comme on visite un autre château classique. Sachant ce qui s'est passé ici, sachant la majesté des lieux, ce POC qui domine un peu toute la contrée aux alentours. En fait, moi je dis toujours, à Montségur, on vient y chercher ce qu'on a envie d'y trouver. Cette montagne, moi je dis qu'elle n'est pas neutre. On respire, mais pas simplement au sens physique, au sens mental du terme.
Ces vibrations sont ressenties par beaucoup, comme ce couple de Toulousains qui découvre Montségur pour la première fois.
J'ai été transporté, un an excellent, et le guide, il a aimé de l'émotion, il intéresse tout le monde.
On était dans un film, on en a pris plein les mirettes, les fleurs en montant.
Et là, on se rend compte qu'il y avait combien, 500, 600 personnes qui habitaient là. Chapeau quand même, hein. Comment ils pouvaient vivre, alors que nous, on vient de passer quand même quelques semaines en confinement. C'était compliqué, alors on imagine bien ici, hein.
Et on reviendra, il faut montrer ce lieu.
D'autant que d'autres sites cathares comme le château de Roquefixade ou encore le château du Puy-Vert, qui est parfaitement conservé, vous attendent tout près de Montségur. Montségur qui a aussi son musée des cathares dans le village au pied du château.
Quelle belle balade en pays cathare. Merci infiniment Patrick Histon.